Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les parlementaires de l'Union sacrée pour la nation applaudissent le discours du chef de l'État sur l'état de la nation hier devant le Parlement. Réuni en congrès, le président de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale juge largement positif le bilan de 5 dernières années de gouvernance de la RDC tel que dressé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais le député national Willy Bolo du FCC estime, lui, que le discours du président de la République mérite vraiment un démenti sur plusieurs points. Le gouverneur de la province de l'Ituri veut redynamiser les opérations militaires de mutualisation des forces entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO contre les éléments des groupes armés réfractaires au processus de paix. Pour lui, ces opérations portent déjà des fruits dans les territoires de Djougoumag et Irumu. Il faudrait donc les renforcer en vue de la protection des civils pendant cette période du processus électoral. Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire du Maniema, est notre invité. Il remet en cause les résultats de l'enquête menée en juin et juillet dernier, résultats publiés par l'Institut national des statistiques Sud Kivu et Maniema, résultats qui parlent d'insécurité alimentaire d'urgence à hauteur de 80,5% au Maniema. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Les parlementaires de l'Union sacrée pour la nation se félicitent du bon discours magistral du président de la République hier devant le Congrès. Le président de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale juge largement positif le bilan de 5 dernières années de gouvernance de la RDC tel que dressé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Léon Mondolé, la matérialisation de la gratuité de l'enseignement est une preuve patente qui motive que Tshisekedi ait un second mandat pour poursuivre les efforts de développement de la RDC. Léon Mondolé est au micro de Michel Kifindangoy.
Deux aspects m'ont préoccupé dans son exercice républicain d'aujourd'hui. Le premier aspect, c'est l'homme. Un Félix Tshisekedi courageux, habile et maîtrisant tous les problèmes de son peuple et qui est déterminé à les résoudre en dépit des difficultés et des conjonctures. Deux, le travail abattu durant son quinquennat. Un travail exceptionnellement positif et prometteur pour le développement du Grand Congo qui, durant les longues périodes, est tombé à terre et criblé par la pauvreté rampante. Des perspectives sociales qui redonnent de l'espoir à des communautés et au peuple congolais. Dans les secteurs éducatifs, par exemple, la résilience inattendue, l'activation de la gratuité, l'amélioration des conditions de vie des enseignants et des études, la construction des écoles. Dans les secteurs sanitaires, la mise en place du système de couverture santé universelle qui protège les concitoyens.
En réaction, le député national Willy Bolio du FCC estime que le discours du président de la République mérite vraiment un démenti et sur plusieurs points. Pour lui, Félix-Antoine Tshisekedi fait un état de lieu imaginaire qui ne reflète nullement la réalité de vie vécue par les Congolais. À titre d'exemple, le chef de l'État a parlé de plus de 400 000 francs congolais comme salaire d'un enseignant, alors que ce dernier touche encore moins de 300 000 francs congolais. Willy Bolio est avec Michel Kifindangoy.
Il est vrai que le président, trompé par ses services, ne peut que dresser un bilan positif parce que lui-même n'est pas en contact direct avec la réalité. Il est certes vrai qu'avec le principe de la gratuité, plusieurs enfants sont rentrés à l'école primaire. Mais néanmoins, il faut retenir une chose. Combien sont rentrés et combien de salles de classe sont construites? Deuxième chose, le président s'est trompé à donner les chiffres de 157 000 à son temps à 400 et quelques mille à ses jours. Moi, je pense que là, le président aussi a été induit en erreur. Il faut vous dire, avec le taux de dollar qui est à 2700 francs le dollar, vous allez savoir si ce qu'il a dit est amélioration ou bien ça affaiblit le pouvoir d'achat de l'enseignant. Je crois que ce discours-là, c'est un discours qui pousse les enseignants à la révolte. Troisièmement, que le président me rassure si lui, dans son entourage, il a quelqu'un dont l'enfant étudie dans une école de gratuité à Kinshasa. Si c'est bon, pourquoi les nôtres ne sont pas là-bas?
En Ituri, les opérations militaires de mutualisation des forces entre les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO contre les éléments des groupes armés réfractaires au processus de paix portent des fruits dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu. C'est ce qui ressort de la réunion mixte d'évaluation sécuritaire tenue hier mardi par le gouverneur de province à Bounia. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de redynamiser ces opérations pour la protection des civils pendant cette période du processus électoral. Martial Kizabiamungu.
Tous les commandants de FRDC des états-majors du secteur nord de la 32e région militaire, du secteur opérationnel de l'armée à Ituri et de la MONUSCO et les chefs du bureau de la mission onusienne ont pris part à cette réunion stratégique. Au menu de leurs échanges, évaluer les succès et les faiblesses de ces opérations conjointes dans les zones où certains miliciens de groupes armés commettent des exactions contre la population locale. C'est là dans les buts de redynamiser ses opérations pour une meilleure protection des civils en prévision des élections générales prévues en décembre prochain. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FRDC à Ituri.
Il était question pour le lieutenant général Lubo Yakancha Madjoni de transmettre sa philosophie du commandement en tenant compte des enjeux actuels, de protéger la population et de créer un climat de confiance entre la population et le défense pour un aboutissement erré du processus de paix et électoral.
Une accalmie et les retours des nombreux déplacés s'observent depuis quelques mois dans les entités ciblées par ces opérations conjointes FRDC MONUSCO. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Parlons à présent de l'une des conséquences de la situation sécuritaire de l'Est du pays, c'est celle sur la santé notamment. Les femmes enceintes, par exemple, lorsqu'elles arrivent à terme, elles devraient normalement se reposer en attendant le jour de l'accouchement. Mais lorsque les balles sifflent, les femmes enceintes du Nord Kivu parcourent des dizaines de kilomètres pour se mettre à l'abri avec leur famille. C'est le cas de Madame Bouhesi, âgée de 27 ans et qui porte sa 5e grossesse. Rosalie Zawadi l'a rencontrée hier mardi matin à la clinique mobile installée dans le camp des déplacés de Boulengo. Elle y a été pour une consultation de routine. Elle veut se rassurer si le bébé qu'elle porte va bien après son parcours de près de 60 km à pied. Rosalie Zawadi revient ici sur sa situation. Suivez.
Madame Manema Bourissi porte une grossesse à terme. Elle croisait les doigts pour que les affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux n'atteignent pas son village avant son accouchement. Mais son vœu ne se réalisera pas. Dimanche, les combats se rapprochent de chez elle. Pendant que son mari n'est pas à la maison, elle décide de partir avec d'autres voisins et ses 3 enfants. Le parcours n'a pas été facile, nous dit-elle.
J'ai quitté Kiroliwe avant-hier. Nous sommes venus lentement. Nous avons passé la nuit sur la route. C'est hier vers 17h que nous sommes arrivés ici. Une voisine m'aidait à prendre l'un de mes enfants. Je portais un autre et je tenais le troisième par la main pendant qu'il marchait seul. Lorsque je me sentais fatiguée, je m'asseyais au bord de la route. Les autres m'attendaient parce qu'ils ne pouvaient pas me laisser seule, enceinte avec les enfants. J'ai eu peur d'avoir fait ce long trajet avec ma grossesse à terme. C'est pourquoi je suis venue ce matin à la consultation pour qu'on vérifie l'état de mon bébé dans mon ventre.
Après la consultation, elle est soulagée et rassurée par l'équipe de la clinique mobile. Son bébé s'est porté bien. Les sages-femmes lui demandent de rester attentive et de revenir à la clinique au premier signal. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Cap vers l'ex-Grand Katanga, le centre de Malembankulu dans le Haut-Lomami se remet petit à petit de la vive tension qui y a prévalu après des tueries qui ont suscité de l'indignation dans l'opinion. Entre-temps, les appels au calme se multiplient et sur place, la sécurité est renforcée. D'autres détails avec Jean Gandou.
Le centre de Malemba s'est réveillé ce mercredi dans le calme. Les activités ont repris timidement. Le motocycliste tué le dimanche dernier a été enterré le lundi dans la soirée, tandis que les autres l'ont été un jour après. Pour l'heure, par peur des représailles, les membres de la communauté kassayenne sont regroupés non loin du port. Parmi eux, on compte les hommes, les femmes et les enfants. Ils passent la nuit à la Belle Étoile. Leurs conditions de vie sont déplorables, indique Émile Mutombo, leur représentant. Entre-temps, les forces de sécurité et de défense ont reçu les renforts des militaires des FRDC venus du territoire voisin de Manono dans la province du Tanganyika. Et depuis, plusieurs personnalités invitent la population de Malembankulu à vivre dans la paix. C'est le cas de Moïse Katumbi qui, sur son Front X appelle les jeunes au calme et demande aux autorités de rétablir la paix. La gouverneure intermédiaire du Lualaba, Fifi Masuka, a aussi dénoncé ces actes cruels. Pour elle, aucune raison ne peut justifier de tels actes. Elle invite ainsi ceux qui vivent dans cet espace à cultiver la paix et l'amour du prochain pour l'assurance d'un Congo prospère. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Économie à présent, impulser la révision du code minier et du règlement minier pour une adaptation au contexte actuel, mettre en place un mécanisme efficace de suivi de la gestion des revenus infranationaux et élargir la liste des minéraux stratégiques sont là certaines des recommandations issues de la deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC, rencontre organisée par le Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS et qui a réuni pendant 2 jours au fleuve Congo Hôtel, 200 personnalités et acteurs tant nationaux qu'internationaux du secteur minier. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Il est question ici de rechercher des solutions innovantes pour répondre effectivement aux défis qui affectent le secteur minier en République démocratique du Congo. Pour les participants, le code minier et le règlement minier qui étaient perçus comme solution a toujours souffert d'application. Et tenant compte des enjeux de la transition énergétique, il s'avère donc indispensable de repenser le secteur. C'est ce que souligne ici le coordonnateur de CPVS, François Mwamba.
Le secteur minier est un secteur essentiel par rapport à notre économie. Mais ce secteur aujourd'hui ne procure pas au niveau de la population congolaise ce à quoi il a droit compte tenu du potentiel dont dispose notre pays. Notre tâche, c'est non seulement d'avoir produit des propositions, il faut maintenant se mettre au travail pour que ces recommandations puissent être réellement appliquées. Et je suis convaincu que si tout ce qui a été dit ici est appliqué, il y aura un changement.
Notons par ailleurs que les participants ont opté pour la transformation de ces cadres de concertation en une structure de dialogue et de réflexion sur l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles et stratégiques.
Au sud Kivu, la situation de la maladie de diabète reste alarmante sur l'ensemble de la province. De nouveaux malades sont enregistrés chaque jour et il y a des décès. Pendant ce temps, les autorités sanitaires du sud Kivu dénoncent la présence dans la communauté des guérisseurs traditionnels qui promettent aux diabétiques une guérison totale. Docteur Landry Moguicho, coordonnateur du programme de lutte contre les maladies non transmissibles, dont le diabète, s'est exprimé hier à ce sujet à l'occasion de la journée mondiale contre le diabète. Il est au micro de Emmanuel Elamejo Akabedi.
La situation n'est pas admissible. Les cas augmentent au jour le jour. Nous avons récolté les nouveaux patients survenus au cours de l'année qui sont tombés malades. Et cela, c'est seulement dans les patients qui sont arrivés au niveau de nos structures de soins. Sinon, les patients qui sont dans la communauté et qui s'ignorent sont nombreux que ceux qui viennent au structure de soins. Imaginez que si nous avons une moyenne de 15 000 nouveaux patients qui sont tombés malades de diabète dans l'année en province et que nous avons une moyenne de 250 décès dans la province seulement, c'est un grand nombre. Malheureusement, dans la communauté, les malades se laissent tromper par les tradis praticiens. C'est le grand défi que nous avons dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent guérisseurs ou soignants de diabète et qui trompent les gens qui peuvent les guérir totalement de manière curative, ce qui n'est pas possible parce que jusqu'à présent, les diabètes, on les traite pour stabiliser et régulariser la glycémie dans le sang. Et ainsi, l'état de santé général peut s'améliorer. Mais on ne peut pas tromper un diabétique, on va le guérir totalement. Non, ça n'existe pas. C'est ce qui se fait par les tradis praticiens et c'est ça le défi auquel nous sommes invités.
Au Maniema, pendant ce temps, l'association des diabétiques du Maniema appelle les habitants à se faire dépister pour savoir s'ils sont diabétiques ou pas. Le chef des travaux, Chomani Mbostani, secrétaire exécutif de cette association, fait savoir qu'aujourd'hui, le Maniema a au-delà de 1800 cas détectés de diabète. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
14 novembre, c'est la journée internationale du diabète. Et nous, les diabétiques, nous avons voulu, à cette occasion, relancer l'association des diabétiques du Maniema pour une meilleure prise en charge. Et aussi, c'était l'occasion de présenter quelques exposés sur le diabète, la prise en charge, sur les mesures de glycémie et aussi sur les examens de l'œil pour les diabétiques. Vous avez vu, le nombre des diabétiques ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1800 cas, donc donc nous avons détecté ceux qui viennent effectivement dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment élevé. Nous avons mis en place un comité provisoire qui va conduire l'association jusqu'à l'adoption des statuts et c'est après qu'on va mettre les comités définitifs. Nous visons une meilleure prise en charge des diabétiques. Nous visons une éducation des diabétiques, notamment une éducation alimentaire. La maladie diabétique, pour la prise en charge, ça coûte très cher, mais en étant dans l'association, ça peut réduire les coûts et nous pouvons aussi avoir la chance d'avoir des partenaires pour nous aider. Nous demandons à la population de se faire dépister pour savoir s'il est diabétique ou pas.
En sport, c'est ce mercredi 15 novembre 2023 que la FIFA lance la campagne des éliminatoires dans la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. En ce qui concerne le groupe B, l'honneur est fait à la République démocratique du Congo de recevoir pour la première journée la Mauritanie. Les Léopards de la RDC et les Mauritaniens se croisent au stade des Martyrs de Kinshasa à partir de 17h. Les deux entraîneurs ont confirmé qu'il n'y aura pas de cadeau à se faire. Sébastien Desabre et Emir Abdoul tous convoitent la mise du jour des 3 points. Surtout que ce sera les retrouvailles de deux vieilles connaissances qui se sont récemment croisées pour la CAN Côte d'Ivoire 2024 avec toutes les deux équipes qualifiées pour la Côte d'Ivoire. Les meilleurs joueurs du moment sont présents dans les deux camps parmi lesquels on suivra encore les duels entre le longiligne gardien mauritanien Mbacke Ndiaye et Cédric Bakambu. Une malice de jeu de ces géants portiers avait valu un carton rouge à Cédric Bakambu qui lui a déjà marqué à 2 reprises.
L'invité.
Il y a quelques jours, l'Institut national des statistiques du Sud Kivu et Maniema a présenté à certaines couches de la population et aux décideurs les résultats de son enquête d'évaluation de la situation alimentaire d'urgence dans la province du Maniema. Cette enquête a été menée en juin et juillet 2023. L'enquête révèle qu'il y a une certaine insécurité alimentaire à hauteur de 80,5%, chiffre que conteste Afani Idrissa Mangala. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Ces 2 dernières années, l'enquête menée par l'Institut national des statistiques, Sud Kivu et Maniema, révèle que la province du Maniema est en insécurité alimentaire où 4 personnes sur 5 sont touchées par l'insécurité alimentaire sur l'ensemble de la province. Êtes-vous au courant de cette situation?
Pas totalement, parce que il a fallu qu'on me disponibilise les données et aussi savoir c'est dans quel territoire. Parce que nous avons au moins 7 territoires plus la ville de Kindu et l'insécurité alimentaire n'est pas une chose facile qu'on peut dire que non, la province du Maniema est attaquée par l'insécurité alimentaire. Si on allait me dire dans le sud Maniema, oui, j'allais être d'accord avec cet institut parce que le sud Maniema est confronté à une guerre de groupes armés qui ont fait prise au moins 8 ans de guerre, s'il vous plaît. Peut-être dans cette zone-là, il y avait autant de déplacés internes et là, je peux être d'accord parce que c'était une zone où toutes les opérations économiques et qu'il tira était affecté. Mais sans identifier le territoire, en tout cas pour moi, je mets en doute ce résultat-là.
Comment expliquer, monsieur le gouverneur, alors que lors de présentation de ces résultats, c'est vous qui présidez même la cérémonie et qu'on a montré presque tous les territoires qui sont frappés par l'insécurité alimentaire?
Oui, vous pouvez participer au lancement ou à l'ouverture de ces travaux, mais sans être au courant de ces résultats. C'est maintenant là que je suis au courant de cela, mais je vous dis bien, ce n'est pas l'ensemble de la province du Maniema, parce que vous connaissez notre province à vocation agricole.
Bien que vous admettez que ce soit dans les sites Maniema où l'insécurité alimentaire doit être parlée, alors quelles mesures prises par vous et votre gouvernement pour résoudre ces problèmes où les résultats révèlent que nous sommes à 80,5% de cette situation?
Le grand défi, c'est faire face à l'insécurité. Et une fois nous sommes arrivés à un bon résultat, alors nous avons passé à la campagne de sensibilisation, dire à la population de se donner à l'activité agricole. Avec l'accompagnement des GIZ, il y a des projets qui sont montés, des projets d'accompagnement dans les activités agricoles. Donc, nous avons incité la population d'abandonner le secteur minier et la population se donne à l'agriculture et vous voyez, nous ne vivons plus la hausse des prix des produits agricoles sur le marché et dans l'ensemble de la province du Maniema.
Bien sûr que la population cultive, mais il y a un sérieux problème d'évacuation de leurs produits agricoles vers les centres de consommation.
Oui, effectivement, c'est la raison fondamentale du programme initié par le chef de l'État du PEDELSA 45 territoires. C'est pas parce que le chef de l'État a constaté que nos routes de desserte agricole sont dans un état de délabrement très avancé et il a initié ce programme. Et ce programme ambitieux commence à produire des effets et certaines routes de desserte agricole sont prises en charge par le ministère de développement rural qui commence à produire des effets dans l'ensemble du pays en général et dans la province du Maniema en particulier.
Vous êtes conscient que ça produit des effets dans la province du Maniema? Si oui, c'est par exemple dans quel territoire où les routes de desserte agricole sont réhabilitées?
Et je pense l'année passée, moi-même j'avais participé au lancement des travaux de l'ouverture des routes de desserte agricole dans les territoires de Kibombo et Kibombo Peninsula et dans quelques territoires de la province.
Et à cela, vous pensez qu'il y a des résultats fiables où la population évacue normalement ces...
Oui, je peux dire effectivement, mais il y a un problème, madame. Lorsque vous entretenez les routes à terre bâtie, qui n'ont qu'une durée de vie après l'entretien de 6 mois. Après 6 mois, la route revient à son état initial. C'est pourquoi c'est un travail qui doit être permanent. Mais lorsqu'on le fait par an une fois, et l'autre année, c'est comme si on n'a rien foutu l'année passé.
Monsieur le gouverneur, vous avez créé une structure RECAM pour l'entretien des routes.
Effectivement, vous avez une idée de ce que je suis en train de faire comme politique. J'avais créé rarement qu'il y ait une régie d'entretien des routes dans la province du Maniema. Nous avons déjà installé sa coordination et nous allons petit à petit vers la mise en place de cette structure qui va s'occuper de la maintenance d'abord de toutes les routes nationales, de toutes les routes provinciales et de toutes les routes de desserte agricole.
Monsieur Fanny Drissamangala, merci.
C'est moi qui vous remercie davantage.